Bienvenue dans l'envers du décor. Aujourd'hui, nous recevons Rémi Prin et Emmanuel Geoffrey de l'équipe du Théâtre des Déchargeurs. Ce nom vous est sans doute familier, tant nous avons visité, aimé, arpenté ce lieu, qui était devenu un peu comme la maison. Mais depuis septembre 2023, un énorme cadenas ferme les grilles du théâtre. Adrien Grassard, le directeur, a décidé de jeter l'éponge, de fermer le lieu et d'annuler toute la saison à venir, y compris les 40 compagnies programmées entre septembre et décembre. Mais Rémi et Emmanuel ne s'arrêtent pas là. Appuyés par un énorme élan solidaire, venu à la fois des compagnies, de la presse, des politiques et des théâtres amis, le label Déchargeur hors les murs continue vaillamment sa route. Aujourd'hui, nous les retrouvons au nouveau théâtre de l'Atalante. Un épisode mené par Ariane Sartel. Donc, bonjour Rémi, bonjour Emmanuel, merci beaucoup d'être là aujourd'hui au Nouveau Théâtre de l'Atalante avec moi. On avait envie de faire ce podcast avec Zone Critique parce qu'on a l'impression, déjà on a beaucoup suivi votre travail au Déchargeur pendant 2 ans à Zone Critique, et aussi parce qu'on a l'impression qu'on a un projet commun dans nos espaces chacun respectifs, c'est-à-dire de mettre en valeur la création émergente de la meilleure manière possible. Et nous, notre projet, c'est d'offrir un espace de critique conséquent, large, à la jeune création, qui se résume pas à 3 lignes dans la terrasse ou redire un dossier de presse. Et du coup, on est hyper sensible aux démarches qui sont en écho de ça. Et les déchargeurs ont été un espace, sont toujours un espace pour que la jeune création existe, montre ses premières tentatives, ses premières créations. Et voilà, donc on avait vraiment envie de faire ce lien entre nous. Et on ne va pas revenir complètement sur tout le processus de fermeture des déchargeurs qui a été très bien résumé dans Scène ouverte, et je vous renvoie à cette émission et dans plein d'autres choses, mais on va plutôt parler maintenant de la suite. Qu'est-ce qui se passe maintenant que les déchargeurs ont fermé le lieu et que tous les deux vous œuvrez pour que le projet des déchargeurs, l'idée, l'ambition, le rêve des déchargeurs continue? Donc voilà, merci beaucoup d'être là pour parler de ça. Est-ce que vous voulez juste un peu vous présenter, enfin dire qui vous êtes, quel est votre rôle dans les déchargeurs, et puis après on avance.
Alors merci déjà. Donc moi c'est Emmanuel Geoffrey, je travaille au déchargeur depuis 2016. Donc j'ai connu les 3 directions successives, donc Ludovic Michel qui était là depuis une vingtaine d'années déjà, puisque le lieu existe depuis le début des années 80 à peu près. Ensuite j'ai connu la direction d'Elisabeth Bouchot qui a duré un petit peu moins de 2 ans, et puis la direction d'Adrien Grassard depuis 2021. Donc voilà, j'ai suivi toute cette étape là et mon parcours au sein des déchargeurs, c'est au départ la communication et les relations publiques, on va dire. J'ai été embauchée pour ça. Et ensuite, mon poste s'est un petit peu modifié, affiné. Les relations publiques ont été prises en charge par Lou Linossier. Et moi, j'ai continué à la communication et j'ai pris aussi en charge pas mal d'administration pour finir par avoir un poste un petit peu de direction adjointe, on va dire, dans les faits. Et avec une grande part aussi de temps pour le festival Courmet Pavit, dont je m'occupe avec Rémi depuis 2017. Et qui du coup sera sa 7e édition cette année. Voilà.
Bah, merci à toi aussi de parler de notre situation. Moi du coup je suis Rémi Prin. Moi à la base j'ai commencé à travailler de manière ponctuelle au déchargeur parce que justement on avait créé ce festival avec Emmanuel Geoffrey. Donc je travaillais vraiment juste sur la période du festival parce qu'à l'époque je travaillais en tant que programmateur au Centre Paris Anime Léal, où je faisais déjà du soutien à la jeune création. Et de fil en aiguille, j'ai quitté le Centre Paris Anime Léal en 2019, et j'ai intégré les déchargeurs en 2019 sous la direction d'Elisabeth Bouchot, mais j'ai fait très peu de temps parce que le Covid est arrivé. Du coup, j'ai dû travailler 4 mois, je crois, avant que le Covid arrive. Et après, y a eu toute la pandémie. Et c'est pendant le Covid que Adrien Grassard a racheté le lieu. Donc j'ai un tout petit peu travaillé avec Elisabeth Bouchot, mais j'ai surtout travaillé avec Adrien Grassard vu qu'on a créé tout le lieu ensemble avec l'équipe, quoi. Voilà. Et je m'occupe aussi de la direction technique du lieu. Donc j'avais 2 casquettes, quoi.
Ouais, ok. Et donc maintenant, voilà, le théâtre des déchargeurs, en tout cas le lieu, a été fermé suite à un gros scandale, on peut le dire, hein, voilà. Ce qui a été très beau, enfin en tout cas moi ce que j'ai trouvé très beau de la distance où je l'ai vu d'abord, c'est à quel point tout de suite la réaction a été « il est impossible que ce lieu ferme », c'est-à-dire le lieu physique ferme, mais le projet ne ferme pas. Et comment on va faire pour reprogrammer toutes les compagnies, les 40 compagnies qui ont été programmées jusqu'à décembre, et aussi le festival Cours mais pas vite qui est prévu donc à la Toussaint, enfin bientôt, la semaine prochaine. Et donc, comment ça s'est passé, cette suite, cette reprogrammation, comment vous avez fait, quelle a été votre façon de procéder pour que ça continue à vivre?
Déjà, sans revenir en détail sur l'affaire, ouais. C'est vrai que quand on a eu la nouvelle, c'était la veille de notre départ en vacances, ouais. Donc ça a été quand même très violent. Ouais. Toutes les infos qui se sont vérifiées, qu'en effet le théâtre ne rouvrait pas en septembre et que du coup on partait en vacances en sachant qu'on revenait chômeur, du coup on était dans nos lieux de vacances respectifs. Ouais, ouais. Donc toute l'équipe, on a dû beaucoup se parler par téléphone et en visio, ce qui a un peu ruiné nos vacances, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que entre le moment où on a eu l'info, parce que l'info a été d'abord révélée par les intermittents, c'est eux qui ont eu l'info en premier, c'est même pas nous, il s'est passé 5 jours avant qu'il officialise les choses sur les réseaux sociaux et par un mail pour l'équipe. Et c'est vrai que la première réaction que j'ai eue à partir du moment où ça a été officialisé, parce que j'étais déjà en contact avec les 40 compagnies qui avaient lancé une pétition très rapidement, ça a été publié un soir. En fait, je me suis dit il faut qu'on fasse un appel à reprogrammation. Je crois que ce qui me choquait aussi, c'est qu'au même moment où il a annoncé ça, lui était sur scène et jouait à guichet fermé. Donc je trouvais ça dingue je trouvais ça dingue en fait que lui-même ne se serve pas du fait qu'il jouait dans un théâtre, le Lucernaire,
pour aider.
Donc en gros, j'ai écrit. Je me rappelle, il était tard, hein, il était 2h du matin quand j'ai écrit ce post, parce que j'arrivais pas à dormir. Et du coup, j'ai écrit un post en spécifiant bien que c'était un appel à reprogrammation et que j'avais bien conscience que les lieux avaient leur programmation qui était sûrement déjà très avancée, qu'on n'avait pas forcément tous et toutes la même ligne artistique, que certains théâtres font pas tant d'émergences, mais beaucoup plus des compagnies plus professionnelles et tout ça. Mais de dire que voilà, il y avait vraiment une urgence solidaire parce qu'il y avait des compagnies qui ont été annulées alors qu'elles jouaient dans un mois. Donc ça a été d'une violence inouïe.
Ouais, ouais.
Et ce qui s'est passé, c'est que très vite, il y a eu des personnes qui eux-mêmes m'ont appelé de leur lieu de vacances, qui en fait sont des théâtres avec lesquels on est très partenaires. Donc voilà, les personnes surtout qui m'ont appelé dès le début très vite, ça a été le Nouveau Théâtre de la Talente, le Duende, le Lavoir Moderne parisien, enfin voilà, tout ça c'est des personnes que j'ai eu très vite au téléphone alors qu'eux-mêmes étaient en vacances. Et du coup, à partir de là, avec Emmanuel, on a commencé vraiment à faire la liste des spectacles et d'essayer de voir comment, avec les lieux qui avaient une ouverture, de dire nous on veut bien essayer d'accueillir une partie des spectacles, comment on les répartit, etc. Qu'après, évidemment, on a essayé de penser aussi aux lignes artistiques des lieux, bien sûr, pour essayer de coller quand même le plus possible à leur programmation. Et à partir de là, on a fait des propositions. Et puis, très vite, il y a des choses qui sont définies. Je crois que la première chose qui a été dealée, c'est justement qu'ici, au Nouveau Théâtre de la Talente, ils accueillent le festival Cours mais pas vite. Assez vite aussi, le Duende a dit qu'il était OK pour prendre 6 spectacles. Je tiens quand même à dire que le Duende, son ouverture de saison, il a ouvert le théâtre plus tôt pour accueillir des spectacles. Donc, ils ont fait une rentrée anticipée. Et après le Lavoir Moderne, c'était sur des échéances plus longues, mais on sait que là, à l'heure actuelle, il y a 4 spectacles qui vont être pris au Lavoir Moderne parisien, mais plutôt en 2024. Et voilà, et de fil en aiguille, comme on voyait que ça réagissait beaucoup, on a commencé à se dire est-ce qu'il faudrait pas inventer une bannière un peu à tout ça. Et du coup, le terme déchargeur hors les murs est très vite arrivé sur la table. Et c'est vrai que pour le moment, tous les lieux qui accueillent des spectacles ou des événements qui devaient avoir lieu au déchargeur vont tous mettre cette bannière déchargeur dans les murs. Donc voilà, ça a été vraiment le premier levier qui s'est mis en place, qui a été beaucoup fait avec des théâtres privés.
Oui.
Et des théâtres avec lesquels on était proches, quoi. Et puis, peut-être sur la deuxième étape, tu veux prendre le relais parce que...
Ouais. Dans un second temps, y a des choses un petit peu plus institutionnelles qui se sont mises en place, on va dire. Et en fait, c'est Adrien Devant, le directeur du théâtre Paris-Villette, qui a un petit peu pris la file de ce mouvement-là, en tant que représentant du coup des théâtres subventionnés par la ville de Paris. Donc en fait, y en a plusieurs, hein. Donc le théâtre Paris-Villette, le théâtre 13, le théâtre 14, les plateaux sauvages,
Sylvia Montfort,
le rond-point, enfin voilà, tous ces lieux assez emblématiques, importants dans le paysage culturel parisien, qui en fait se sont aussi réunis de leur côté, donc avec Adrien en tête de file pour gérer un petit peu tout ça, et qui se sont proposés aussi d'étudier les différents spectacles qui étaient programmés chez nous pour potentiellement reprogrammer quelques-uns, donc dans une envergure un petit peu moins importante que les théâtres privés qu'on a cités avant, parce qu'il y a moins de possibilités aussi en termes de créneaux et que c'est souvent des programmations qui sont faites au moins 2 ans à l'avance. Mais en tout cas, voilà, ils étudient ces choses-là et on a fait avec Rémi un document qui reprenait la programmation, les dates, etc. Pour qu'ils puissent essayer de reprogrammer des choses. Il est important de dire aussi que tout cet élan de programmation est super, mais c'est vrai que les compagnies qui étaient programmées chez nous, même si elles ont quelques dates, n'ont pas du tout le même nombre de dates que ce qui était prévu au départ. Et c'est vrai que si aujourd'hui il y a des lieux, même en dehors de Paris, qui nous entendent et qui sont intéressés pour faire partie de ce mouvement et pour représenter aussi cette création-là, je pense que c'est important. Tout n'est pas terminé. Là, on a reprogrammé à peu près la moitié des spectacles, mais en fait, même les spectacles déjà reprogrammés sont encore en recherche de dates, puisque pour la plupart, ils avaient une série d'une dizaine de dates. Et les dates qui ont été reprogrammées, généralement, ça n'excède pas les 4-5 représentations grand maximum, et c'est vrai que voilà, ils ont besoin aussi de ça, parce que ce qu'ils avaient prévu au départ, c'était quand même quelque chose d'une ampleur beaucoup plus importante et qui permettait aussi de les asseoir professionnellement, de faire venir des professionnels, de la presse, etc. Et c'est vrai que là, dans les délais qu'on a parfois, c'est dur de faire un travail en amont pour pouvoir anticiper toutes ces dates et tout ça, et du coup tout reste un petit peu à construire aussi sur ça. Et voilà, s'il y a des gens qui nous entendent et qui ont envie de ça, ce serait chouette.
En gros, on a refait le point hier, parce que du coup, Adrien Devant a déjà validé 3 spectacles dans des lieux subventionnés.
D'accord.
Le Théâtre 13 en prend un, le Sylvia Montfort en prend un.
L'Athénée,
c'est pas vrai. Enfin, je crois qu'ils ont participé à ce réseau-là, mais l'Athénée, pour le coup, c'est Prémisse Prod qui m'a contacté pendant les vacances, Raphaël De Almeida, par le biais de Pierre Dupont, et qui lui a décidé de prendre 2 spectacles, dont, et c'est ça aussi qui est super chouette, c'est dont le prix du jury de Courmet Pavé de l'année dernière, Méduse, qui du coup va jouer 6 dates. Mais en gros, là, on a refait le point hier, et sur les 40 spectacles, il en reste une quinzaine qui n'ont pas retrouvé de reprogrammation. Donc, on a déjà réussi à reprogrammer plus de la moitié. Donc, c'est 15 qui vraiment n'ont pas retrouvé de date du tout. Après, en effet, les autres ont retrouvé des dates. Mais comme l'a dit Emmanuel, il y a quand même une vraie perte, quasiment la moitié de leurs dates quand même. Donc, c'est vrai que s'ils peuvent... Enfin, ça sera peut-être un autre combat à mener dans un second temps. C'est de se dire, OK, est-ce qu'on continue pas à essayer de faire... de représenter un peu ces spectacles.
Sachant que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a les 40 spectacles qui étaient programmés, c'est une chose, mais en fait, il y a aussi toute la saison, la suite de la saison 23-24 qui se tenait donc entre janvier et juin, pour lesquelles les discussions étaient déjà très avancées, Rémi avait fait les auditions, etc. Donc en fait, potentiellement, c'est la part immergée de l'iceberg représente quasiment le même nombre de compagnies, en fait, qui avaient des dates un petit peu...
possible
et très envisagé concrètement. Et en fait, voilà, ça questionne aussi sur le dénuement dans lequel ont été placés quasiment une centaine de compagnies. Et si on calcule le nombre d'artistes que ça représente, c'est énorme.
C'est colossal, ouais.
Et puis c'est aussi, moi, c'est ce qui m'a beaucoup choqué aussi, parce que bon, moi, je suis un peu des deux côtés de la barrière. Moi, j'étais fait partie aussi des premières compagnies programmées au déchargeur il y a 2 ans. Donc en fait, de me dire, mais c'est horrible d'avoir 2 mois avant ton spectacle qui est déprogrammé, parce que en fait, c'est pas juste jouer ou pas jouer, c'est aussi tous les frais que t'as engagés toi, les subventions que peut-être t'es allé chercher pour contribuer à payer les dates. Enfin, c'est énorme, en fait, c'est tout un système, jouer des dates, et donc le nombre de dates est hyper important. Pour certaines subventions, il faut un certain nombre de dates pour pouvoir avoir la subvention, donc en fait, c'est tout est hyper important, quoi. C'est ça qui est fou dans cette histoire. Quoi.
Et c'est bien de c'est le rappeler du... aussi, ouais. de que en fait, c'est pas juste une déprogrammation de spectacle, parce que parfois. C'est vrai que quand on est peut-être public ou on n'a pas forcément conscience de tout ce qu'il y a derrière, mais effectivement, pour ces gens-là, c'est un manque à gagner de milliers d'euros et de parfois plusieurs mois, voire plusieurs années de travail qui étaient prévus pour cette exploitation. Et c'est vraiment important que tout le monde ait conscience de ça et que ce n'est pas juste 10 dates qui sont annulées. C'est tout un écosystème travail, aussi, ouais. Et un gros travail de notre part aussi. Hein. Tout était déjà prêt pour ces programmations, la communication, le site internet, etc. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de se servir de ce travail-là pour qu'il ne soit pas perdu complètement. Et en fait, on l'a fait de deux manières. Moi, je me suis servi en fait du site internet auquel on a encore accès grâce à Daniel, qui est le concepteur du site et qui est devenu un ami en fait, et qui nous a permis de moduler un petit peu le site internet pour cette destination-là. Et en fait, aujourd'hui, le site internet est vraiment la vitrine des déchargeurs hors les murs, c'est-à-dire que sur le site, on peut trouver tous les spectacles et leurs dates de reprogrammation, les lieux dans lesquels ils sont reprogrammés, les dates, le lien qui renvoie vers la billetterie. Et c'est aussi un endroit où en fait, toutes les personnes qui voulaient reprogrammer les spectacles pouvaient trouver toutes les informations à jour sur chacun des spectacles programmés, les dossiers, la distribution, toutes les informations qu'ils souhaitaient. Donc ça, c'est un outil voilà, dont on s'est beaucoup servi pour mettre en avant ça. Et du coup, c'est vrai que c'est important que là, les personnes qui nous écoutent, il faut aller voir ces spectacles, il faut continuer à se renseigner là-dessus, parce qu'en fait, les lieux qui programment ces spectacles prennent un gros risque, parce que souvent, c'est des spectacles qui sont intégrés à la dernière minute dans leur programmation, qui ne sont parfois pas dans la ligne directe de leur programmation habituelle. Et en fait, c'est hyper important qu'il y ait du monde sur ces représentations et d'avoir le réflexe de toujours continuer à communiquer avec ce site internet. C'est vraiment dans l'idée de valoriser le travail des compagnies et aussi des lieux qui prennent ce risque-là, parce que c'est un vrai risque économique. Et c'est vrai que l'économie financière dans laquelle on était est une économie précaire de toute façon, puisqu'on est des lieux indépendants sans subvention et qui dépendent de rien d'autre que de la billetterie. Et en fait, finalement, ce qui s'est passé aux déchargeurs peut arriver à d'autres lieux, dans d'autres circonstances. Et c'est vrai que c'est hyper important, et on l'a rappelé beaucoup aussi au rassemblement du 1er septembre, c'est de dire allez au théâtre, en fait, il faut continuer, il faut acheter des billets, parce que voilà, en fait, c'est pas juste aller au théâtre, c'est aussi participer au financement d'un écosystème qui est précaire, mais qui est essentiel et vital. Et en fait, si on le fait pas, à Paris, on risque de se retrouver avec un paysage culturel qui sera moins riche, moins montagneux, moins avec moins d'aspérité, qui sera un petit peu plus lisse. Et nous, on veut œuvrer à ça, et c'est pour ça qu'on continue aussi, et que c'est hyper important qu'il y ait des lieux aussi différents et qu'il y ait des moyens de fonctionnement aussi différents, parce que là, on a des lieux privés, des lieux publics qui s'engagent à nos côtés, et c'est hyper, hyper enrichissant, je pense, pour les compagnies aussi. Là, par exemple, Méduse à l'Athénée, c'est un lieu qui est super, où ils vont avoir une équipe super derrière et tout ça. Et en fait, pour elles, c'est une avancée par rapport à leur compagnie. Donc voilà, il y a plein de choses, de jolies choses quand même qui se passent suite à tout ça. Mais tout reste assez fragile et repose quand même aussi beaucoup sur la venue ou non des spectateurs et des spectatrices dans les lieux. Quoi.
Ça, c'est le vrai enjeu. Ouais. Mais du coup... les déchargeurs ont été aussi dès le départ, il me semble, aussi un lieu, pas seulement un lieu d'accueil de l'émergence, mais aussi un lieu de réflexion sur l'émergence, les conditions de l'émergence. Par exemple, ce que vous avez mis en place, c'était que le speed dating de programmation, les cafés programmation, c'est-à-dire le fait de venir directement au théâtre, proposer son dossier, rencontrer les gens et ne pas être devant un mail qui répond pas, qui est souvent les conditions auxquelles sont confrontés les jeunes créateurs et créatrices. Et voilà, le fait d'accueillir aussi des réunions de la Fédération Pirate, de Urgence Émergence, voilà, d'être aussi un lieu qui réfléchit sur les conditions de l'émergence ou sur le paysage de l'émergence. Et du coup, là, avec ce qui se passe, avec ce vrai, vrai mouvement de mutualisation, de solidarité qui s'est un peu créé avec les théâtres dont on a parlé, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge, que les lignes bougent un peu dans ce paysage de l'émergence, pour une fois qu'on est confronté à un vrai problème concret et urgent et grave et énorme, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train un petit peu de bouger, de changer, ou c'est encore vraiment, vraiment... fragile, comme tu disais, oui.
Moi, je trouve que... Moi, j'ai l'impression quand même que cette histoire va faire un peu date.
C'est ça, oui.
Parce que... Oui. Mais pas forcément... pas forcément spécifiquement du fait que ça soit les déchargeurs. Même si peut-être quelque part, dans ce que tu dis, c'est vrai, t'as raison, qu'on n'était pas juste un théâtre dédié à l'émergence, on faisait aussi plein d'autres choses à côté qui... J'ai l'impression que les gens aussi avaient vraiment l'impression que c'était un peu la maison aussi... beaucoup de gens, et de toute façon c'était l'ambition qu'on a toujours eu, quoi. Mais non, moi j'ai l'impression que ce qui fait beaucoup de bien, c'est le comme on avait une programmation qui était un peu à la frontière entre le public, le privé, et ben d'un coup j'ai l'impression que dans la solidarité qui se met en place, il y a enfin cette rupture entre le public et le privé qui est en train d'exploser un peu. Et ça c'est une explosion dont je me réjouis. Je trouve que c'est un très beau carnage. Ouais. Enfin voilà, j'espère que ça va rester comme ça. En tout cas, j'y crois vraiment. Après, ça pose d'autres questions dont on pourra parler après. Sur les... Moi, je trouve qu'il y a aussi un problème d'infrastructure dans les lieux publics. Et c'est vraiment la problématique auquel les programmateurs qui nous soutiennent sont confrontés. C'est qu'ils ont des salles énormes. Et en fait, je comprends pas pourquoi dans les théâtres publics, ils ont pas des petites salles en plus des grandes salles pour justement faire un travail d'émergence. Parce qu'en effet, moi je les comprends. Je sais pas, moi, Madrigal Festin dans une salle de 500 places sur 2 semaines, bah évidemment qu'ils se disent non, on n'y va pas. Alors que s'ils avaient une petite salle, et en fait, je me rends compte que dans les infrastructures publiques, il y a très peu qui ont des petites salles. Ils ont tous des énormes bateaux. Enfin voilà, mais bref, c'est une parenthèse. Donc voilà, oui, en tout cas, oui, j'ai l'impression que ça va faire date à ce niveau-là. Et je crois aussi que il y a plusieurs choses, c'est que mine de rien, la mairie de Paris nous a quand même reçus assez vite. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient face à une problématique qui n'allait pas se tasser du tout. Et puis, il y a eu beaucoup d'élus de l'opposition aussi qui sont venus en soutien. Là, je sais qu'il va y avoir un vœu des élus communistes et des élus écolos qui va être présenté au Conseil de Paris pour acter qu'il faut qu'il y ait une relocalisation du lieu autre part. Voilà, moi j'ai l'impression quand même que voilà, que c'est... Et puis voilà, ce que je trouve beau aussi, c'est que dans cette histoire de reprogrammation, le lieu, en fait, le terme déchargeur, il va rester jusqu'en 2024. Régulièrement on va entendre parler des déchargeurs. Et en fait, ça, je trouve que c'est une première belle victoire. C'est que le lieu est fermé, là il est cadenassé, on n'a plus accès. Mais en fait, il vit quand même, en fait. Et c'est, voilà, symboliquement, moi je trouve ça assez beau, en fait.
Ouais, c'est une belle victoire.
Que ce mot déchargeur continue à vivre. Moi, j'ai aussi l'ambition qu'il continue à vivre même après, en fait. Je pense que, voilà, c'est une marque pour moi maintenant, les déchargeurs. Un peu comme Cours mais pas vite est une marque. Et je pense que cette marque, il faut qu'elle perdure. Parce qu'elle elle représente pour plein de gens quelque chose, en fait, qui n'a pas grand chose à voir avec les murs, en fait. C'est presque un mode de pensée pour moi.
Complètement.
Du coup, je pense que c'est vraiment sur ça qu'avec Emmanuel, on est en train de travailler.
Et du coup, est-ce que vous avez déjà des perspectives pour la suite ? Donc, tu parlais de relocalisation. Est-ce que là, vous avez des pistes concrètes de ça ? Est-ce que vous avez aussi des envies, vous, des rêves, des choses qui vous... Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler.
Après, tu reprends la suite, hein, mais je pense que tu vas être d'accord avec ce que je dis. C'est qu'il faut quand même se rendre compte que ça a été monstrueusement violent, ce qui nous est arrivé. Oui. Que, du coup, même si là on est
combatif,
on est très combatif, et Et en effet, le premier combat dans lequel on s'est plongé totalement avec Emmanuel, c'est la reprogrammation. C'est vrai que sur exactement ce qu'on veut faire après, disons qu'on est en train de mettre nos envies au même endroit. Parce que même au sein de l'équipe, je sais qu'au sein de l'équipe, on a fait aussi une réunion parce qu'on avait besoin aussi de savoir comment se sentaient les gens après cette histoire. Mmh. Il y a des gens, ils ont dit franchement, je suis écœuré par ce qui s'est passé. Bien et sûr. J'ai vraiment envie de prendre mes distances avec tout ça, ce qui est complètement compréhensible. Il y en a d'autres qui disent bah, je sais pas trop, voilà. Et même Emmanuel et moi, même si on a des envies qui se rejoignent à certains endroits, il y a encore des choses qui ne se connectent pas totalement, quoi. Donc il faut aussi qu'on prenne le temps d'installer tout ça. Voilà, je pense que tu es d'accord. Hein.
Et je pense que ce qu'on s'est dit, comme on fonctionne beaucoup comme ça avec Rémi aussi depuis, ça va faire 7 ans qu'on travaille ensemble, c'est de prendre un peu les problèmes les uns après les autres, on va dire. Et là, en fait, je crois qu'on s'est retrouvés beaucoup sur le festival et de se dire que là, notre énergie, du coup, on la met beaucoup sur le festival en ce moment qui a lieu la semaine prochaine pour repenser un peu potentiellement sa structuration, ses ambitions, ses partenaires, pour redéfinir un peu l'endroit qu'il est pour nous, pour les personnes qui y participent, pour les gens qui l'accueillent. Et c'est vrai que, voilà, en fait, on prend chaque chose un petit peu en son temps et on se dit que commencer par ça, qui sera aussi de toute façon au cœur d'un potentiel futur projet, c'est évident, en fait, de solidifier un petit peu toute cette base de ce festival qui fera sa 7e édition là, c'est un peu notre cheval de bataille dans ce moment, et qui, je pense, sera le début et qui ouvrira en fait les portes de tout ce qui va arriver derrière, puisqu'en fait tout est un petit peu lié. C'est vrai que finalement, le festival est un petit peu la concentration de toutes nos ambitions et de toutes nos envies, c'est-à-dire de considérer qu'en fait, c'est un endroit de création, c'est un endroit qui laisse le temps, c'est un endroit qui laisse aussi la possibilité de rater, de recommencer, puisque c'est un temps long, et c'est un endroit d'accompagnement. Et c'est vrai qu'en fait, tout ça représente finalement le projet des déchargeurs, d'une certaine manière, qui est concentré dans un festival avec une sélection, parce que du coup, on ne peut pas le faire pour énormément de monde, mais en fait toutes ces ambitions-là, c'est-à-dire la mise en commun de compétences, la transversalité entre des équipes, entre des artistes, entre des personnes qui travaillent dans un bureau administratif, et cette horizontalité en fait entre les gens et entre les compétences, c'est vraiment l'essence de tout ce qu'on a réfléchi et de tout ce qu'on a construit aussi sur ces derniers temps. Et là, en fait, ça existe de manière très concentrée dans le festival, et pour l'instant c'est ce sur quoi on a envie de mettre
voilà. Et donc pour abonder dans le conseil, du coup, comme on est une équipe qui se retrouve sans directeur et sans structure, la première chose à faire, c'est qu'il faut structurer.
Oui.
Et c'est vrai que là, du coup, le premier objectif, c'est que moi, j'ai une structure, vu que je suis metteur en scène et que j'ai une structure associative. Donc c'est vrai que là, on est en train de se dire qu'on va mutualiser ça.
Refaire les statuts.
Ça demande juste un petit travail parce que il y a plein d'autres choses qu'on a, le compte en banque, l'assurance, tout ça, la licence. Mais du coup, ça veut juste dire restructurer, changer de bureau, changer les statuts. Donc là, on est vraiment dans cette énergie-là. Et voilà, et je sais que c'est aussi possible qu'avec cette structure, on l'utilise aussi pour essayer de postuler à des lieux, parce que mine de rien, on a quand même ça en tête, d'essayer de relocaliser. Peut-être qu'avec le Conseil de Paris, il y a peut-être des choses qui vont s'agencer, parce qu'on va être en droit de réclamer à partir du moment où ça a quand même été acté à la Conseil de Paris. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver un lieu, mais ça veut dire qu'en soi, on a le droit de les solliciter toute l'année si on veut, pour dire « Ouh, on est là, vous ne nous avez pas oublié, nous, on ne vous a pas oublié. » Et ça, moi, je trouve que c'est un bon moyen de continuer. Après, voilà, on a postulé aussi un lieu, pas à Paris, en Seine-Saint-Denis.
Okay.
Parce qu'on s'est dit que voilà, on s'est dit que ça valait le coup de tenter. C'est un lieu super, donc on va voir. On a répondu à l'appel à projet un peu en urgence, mais les personnes qui organisent l'appel à projet sont au courant de notre situation et nous ont quand même dit de postuler, malgré le fait qu'il nous manquait énormément d'informations, enfin énormément d'éléments pour pouvoir postuler. Donc on va voir si potentiellement ils ont envie de sauver les déchargeurs, eux. Donc voilà, mais c'est vrai que il y a ces deux choses qui vont se mettre en place petit à petit, quoi.
Ok, bah en tout cas, c'est assez impressionnant tout ce qui s'est mis en place tellement vite. Enfin, moi, j'ai l'impression que tout est allé tellement vite. On était nous aussi en vacances, on a vu tout ça se dérouler. En fait, là, il y a tellement de choses concrètes qui sont en place. C'est assez.
Moi,
c'est
je
assez
tiens aussi à ouais. dire que ce qui a été super beau, parce qu'on ne le voit pas trop, mais c'est que les 40 compagnies, enfin, elles pourraient presque se fédérer là aujourd'hui.
Ouais.
Parce qu'elles se voient énormément. Elles sont en contact constant, elles se donnent des coups de main. Il y a eu plusieurs réunions qui ont été faites parce qu'elles n'excluent pas de faire une démarche en justice par rapport à ce qui leur est arrivé et la brutalité, etc. Et voilà, moi ce que je trouve magnifique, c'est que c'est des compagnies qui, évidemment, certaines se seraient croisées parce qu'elles auraient joué en même temps, mais là, elles se voient tout le temps. Et même moi, je les vois énormément. On se parle beaucoup. Enfin, ça a rapproché dans la lutte aussi plein de personnes qui, de générations différentes, mine de rien. Parce que oui, ok, c'est un théâtre émergent, mais il y a aussi... L'émergence est très vaste. Et, enfin voilà, et ça, vraiment, moi, pour avoir assisté à plusieurs réunions avec eux... même de les avoir vus en soutien le jour du 1er septembre, les prises de parole, etc. Moi, je trouve que ça aussi, c'est quelque chose qui fait du bien dans cette situation qui est catastrophique, quoi. Enfin, ouais. qui est très violente. Quoi.
Mais c'est sûr que... Enfin, ça revient un peu à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'en fait, la question de la mutualisation dans l'émergence, qui est le mot qui revient tout le temps, chaque fois qu'on fait des réunions, quand on a parlé avec Urgence Émergence, avec les pirates, c'est toujours un peu le mot, voilà, comment on peut se fédérer, comment on peut... Là, en fait, finalement, il y a une occasion où ça devient très, très concret, en fait, ce que c'est que la mutualisation, la fédération, l'entraide, la solidarité et tout. Et c'est vrai que ça, tu disais, ça fait date, je pense que c'est vraiment là aussi que ça se voit à tous les niveaux, quoi. Et donc ça, c'est effectivement, c'est assez beau. Et pour être aussi dans l'émergence, ça fait chaud au cœur aussi de notre côté, quoi. Et je voulais peut-être revenir un petit peu sur Cours mais pas vite, et un peu plus précisément. Donc là, on est au nouveau théâtre de la Talente, qui est le lieu qui accueille le festival, donc Cours mais pas vite. Et est-ce qu'on pourrait juste voilà, repréciser quel est le principe de ce festival, un peu son historique et à quoi s'attendre cette année, du coup.
Alors, c'est un festival qui existe depuis 2017, qui ouais. est né au Déchargeur, en fait, avec Ludovic Michel, qui était du coup le directeur au moment où ça a commencé. Donc l'idée du festival, c'était donc ces formes courtes, donc des petites formes de 30 minutes, de premiers projets, qui étaient présentés en fait à un public. Et donc au départ, c'est comme ça que ça a été pensé. Et en fait, au fur et à mesure, on a affiné un petit peu les conditions du festival et surtout le fait que le moment du festival, c'est-à-dire les deux jours où il y a les représentations, n'est vraiment que le début de tout un mécanisme d'accompagnement, puisqu'en fait, ces dates-là signent en fait le début d'une collaboration entre les deux lauréats, le prix du public et le prix du jury, qui va sur une année complète, en fait, avec toute l'équipe anciennement des déchargeurs, parce qu'on était dans les murs des déchargeurs. Mais du coup, tout un réseau de compétences de personnes en fait, qui accompagnent ces équipes-là pendant toute une année. Donc pour le prix du jury, c'est vraiment un accompagnement très complet avec un accompagnement sur de la structuration, sur de l'administration, sur de la production, de la communication, de la diffusion, des relations avec la presse, de régime de l'intermittence. Enfin, on adapte en fait, vraiment à chaque compagnie à ses besoins. Et en fait, au début de l'année, après que le lauréat ait été prix du jury, on dessine en fait, tout un calendrier en fonction des besoins, et en fait c'est vraiment à la carte, c'est-à-dire qu'en fonction de la compagnie, on leur fait rencontrer des gens, on met en place des choses, etc., pour que ce soit le plus cohérent possible. Et ensuite il y a aussi l'idée que à l'issue de cette année-là d'accompagnement, de professionnalisation, ils puissent éprouver tout ce qu'ils ont travaillé en jouant en fait une série de dates dans des conditions professionnelles en fait pour une compagnie. Et c'est vrai que tout ce cheminement-là vient aussi de tout ce qu'on voit en fait et de toutes les compagnies auxquelles on est confronté en fait chaque jour depuis une dizaine d'années, et de voir en fait les lacunes qu'il y a aussi sur beaucoup de choses, sur l'administratif, sur le fait que en fait aujourd'hui être un artiste, c'est pas que se produire sur un plateau. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et que parfois on ne connaît pas, et en fait nous on est là pour donner un petit peu les armes que les compagnies n'ont pas souvent, pour en fait pouvoir rentrer au mieux là-dedans. Et c'est vrai que là, en fait, depuis toutes ces années-là, on a une centaine de candidatures par an. Et en fait, ce ne sont que des premiers projets qui sont de plus en plus, et là cette année exclusivement des premières écritures. On avait aussi des premières mises en scène, donc d'adaptation et de textes qui existaient déjà. Et en fait, de fait, de par la ligne artistique des déchargeurs qui était très portée sur l'écriture, sur les mots, en fait, finalement, on a vraiment orienté aussi le festival sur la recherche d'auteurs et d'autrices, en fait, parce que c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Et voilà, et du coup, cette année, on a six premières écritures qui sont vraiment des écritures très originales, très audacieuses, très, voilà, qu'on a eu beaucoup de plaisir à lire, à découvrir, à rencontrer. Et forcément, là, avec la fermeture des déchargeurs, les choses sont un peu bousculées, puisque ici, on est au Nouveau Théâtre de la Talente, alors qu'on aurait dû faire le festival il y a un mois aux déchargeurs. Et en fait, ça bouscule aussi tout notre accompagnement, puisque maintenant, on n'a plus de lieu, donc ça veut dire qu'il va falloir repenser un petit peu cet accompagnement. On n'a plus de lieu pour proposer des dates de représentation, donc en fait, là, ça va être de tisser de nouveaux partenariats pour potentiellement trouver de nouvelles salles, de nouvelles façons aussi pour les compagnies d'éprouver leur spectacle, peut-être plus de lieux de résidence, plus de sorties de résidence, peut-être sortir de Paris aussi. C'est un questionnement qui est au centre un petit peu de tout ce qu'on se dit aujourd'hui. C'est de se dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui l'émergence, il faut pas aussi la délocaliser un petit peu et puis potentiellement aller voir un petit peu des lieux en région, essayer d'ouvrir un peu ces choses-là, parce qu'en fait aujourd'hui la cession, c'est-à-dire l'achat d'un spectacle, reste un moyen important et essentiel pour une compagnie pour grandir. Et du coup, ça va être vraiment de se placer aussi dans cette économie-là pour nous et de les orienter, de les aider au mieux pour arriver à ça. Donc en fait, cette année va être un peu une année différente, mais qui, à mon sens, va nous faire gagner, va leur faire gagner en professionnalisation et en pertinence aussi, peut-être, sur comment on cible une toute première création d'un auteur ou d'une autrice pas du tout identifiée par le grand public ni par les professionnels. Comment, en fait, avec et grâce à la marque Court mais pas vite, on accompagne et on les place à un endroit rassurant, en fait, dans cette création, pour qu'en fait, pendant une année, ils soient sereins. Et qu'en fait ils appréhendent cette première création comme un premier pas vers quelque chose de super chouette, quoi.
Voilà. Génial. Et merci beaucoup beaucoup pour votre temps et merci pour tout ce que vous faites, c'est hyper important. Et voilà, moi vraiment très très personnellement et très égoïstement, s'il n'y avait pas eu les déchargeurs, j'aurais pas pu lancer le spectacle que je tourne là depuis 2 ans maintenant. Ça a été un espace de crash test bienveillant, heureux et très très joyeux, donc voilà, j'espère que ça va durer encore longtemps. Si vous avez quelque chose à ajouter pour terminer, voilà, mais sinon merci beaucoup.
Non, non, bah si des lieux
voilà, un appel,
si des lieux nous entendent, on cherche des partenariats à tout point de vue, en fait.
Oui,
vu que
sûr.
Pour le moment on est une équipe sans capitaine, sans structure, on a besoin de soutien à plein de niveaux, donc
tout peut être utile.
Voilà, et puis on a toujours été ouvert à toute proposition de toute manière, donc ça a toujours été dans notre ADN, donc voilà.
Et peut-être juste que moi je trouve qu'on n'est pas une équipe sans capitaine, puisqu'on est deux capitaines quand même plutôt complémentaires. Et non, ce serait plutôt de dire merci à toutes les personnes qui, à la fois compagnie, professionnelle, spectateurs et spectatrices aussi. On a beaucoup de gens qui venaient au déchargeur et qui continuent à demander des nouvelles et des choses comme ça. Et en fait, je pense que cette grande famille, de toute façon, ne peut pas ne pas exister ailleurs, d'une autre manière. Et en fait, voilà, moi, je suis assez confiante.
Moi aussi. Voilà. Merci beaucoup.
Merci.
Le festival Court mais pas vite aura lieu cette année au Nouveau Théâtre de l'Atalante, à Montmartre, les mercredis 11 et jeudi 12 octobre prochain. Vous pourrez y découvrir 6 projets sous forme de maquettes de 30 minutes. Par ailleurs, la programmation des déchargeurs hors les murs est toujours consultable sur le site des déchargeurs. N'hésitez pas à y faire un tour et à aller soutenir la jeune création et celles et ceux qui se battent pour elle. Longue vie aux déchargeurs, sous une forme ou sous une autre.